Et on va accueillir, comme il se doit, notre invité du jour, Michel Favret. Bonjour, bienvenue à Eau de Radio.
Bonjour Joël.
Et bonne année, vu que c'est encore temps.
Voilà, hein, pour commencer, je profiterai de mon passage à l'antenne, même si c'est un peu tardif, pour souhaiter une bonne et heureuse année 2018 à nos auditeurs. Et comme on le dit entre astronomes, un bon ciel, ce qui signifie un ciel clair permettant d'observer la voûte céleste. Mais sur ce point, le mois de janvier aura été plutôt déplorable et on ne peut qu'espérer une amélioration pour les mois suivants.
Bon, allez, on va en parler de votre chronique, mais juste avant, Michel, voilà, le protocole de bonne année, c'est important. Voilà, entre astronomes avertis. Allez, constellations et galaxies, rappelez-nous en deux mots, et puis on en redira quelques mots, bien sûr, à la fin de votre chronique.
Donc, une petite association, par le nombre de membres. Par le nombre
de membres. Je me corrige, Michel.
Située en Dordogne, près de Mussidan, et qui, en particulier, si on parle ici dans la région bordelaise, possède un planétarium qui peut venir dans différentes structures, hein, souvent ce sont des établissements scolaires, des écoles, des collèges, des lycées, pour montrer le ciel aux élèves et expliquer un petit peu ce qu'on peut observer dans le ciel. On a d'autres activités, mais plutôt réservées à la Dordogne. Donc si des professeurs nous entendent aujourd'hui, il est encore temps pour le premier semestre 2018 de réserver le planétarium pour le faire venir dans l'établissement.
Et plus d'infos via le site, on le rappelle, on le redira également à la fin de la chronique où je vais y arriver, constellationsetgalaxies.org. Voilà, c'est au pluriel.
Voilà.
On va y arriver, rassurez-vous. Allez, alors pour commencer votre 39e chronique, Michel. Alors, évidemment, la première question, que nous réserve le ciel pour cette nouvelle année 2018?
Alors, quand on examine une nouvelle année du point de vue astronomique, on s'attache bien sûr d'abord aux grands phénomènes prévisibles comme les éclipses. Il y aura en 2018 deux éclipses totales de Lune, dont une aujourd'hui même. Mais il est inutile d'en faire la publicité car elle se déroulera entre 12h48 et 16h11, hein, donc elle commencera pendant la chronique, donc sera totalement invisible en France. Ne pourront en profiter que les habitants de l'Asie et de la zone pacifique, dont nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie, mais je doute que les ondes de radio portent jusque là-bas. La deuxième éclipse totale de Lune sera le 27 juillet. Et elle sera visible en France, mais dans des conditions assez mauvaises pour apprécier le phénomène. En effet, pour notre région, la Lune se lèvera déjà presque complètement éclipsée, et l'on ne pourra voir que la fin du phénomène se déroulant à une faible hauteur au-dessus de l'horizon est. Pour la voir, si la météo est bonne, il faudra choisir un site où cet horizon sera bien dégagé. Le fait de n'en voir que la fin nous privera d'une bonne partie de la magie, hein, si je peux dire, d'une éclipse de Lune, c'est-à-dire le passage d'une pleine Lune très brillante, masquant presque toute la voûte céleste de son éclat, à une lune éclipsée, donc rougeâtre, faiblement éclairée, au milieu d'une voûte céleste bien noire, presque comparable à celle d'une nouvelle lune. Puis la transition inverse, à nouveau vers la pleine lune. Quand on parle éclipse, on pense bien sûr aux éclipses de soleil, qui se produisent généralement à 15 jours d'intervalle d'une éclipse lunaire, c'est-à-dire à la nouvelle lune précédente ou suivante, puisque les positions relatives des trois astres sont alors favorables aux alignements Terre-Lune-Soleil ou Lune-Terre-Soleil. Pour les auditeurs qui voudraient réviser ce mécanisme, hein, du phénomène des éclipses, j'en avais parlé à l'occasion de l'éclipse partielle de soleil de mars 2015 dans la chronique numéro 6, hein, ça fait un moment, qui est disponible à la réécoute sur notre site web comme toutes les autres. En 2018, il y aura trois éclipses de soleil, le 16 février, puis le 13 juillet et le 11 août. Malheureusement, ce seront toutes des éclipses partielles, l'ombre projetée de la Lune frôlant la Terre sans la toucher. Et les deux premières ne nous concernent absolument pas, car se produisant en Antarctique, Amérique du Sud ou Australie. Celle du 11 août sera visible en Europe, mais pas pour nous, car elle ne touchera que le nord du continent, et encore dans des proportions assez faibles. À Tromsø, en Norvège, au nord du cercle polaire, le soleil ne sera masqué qu'à environ 30%, formant comme un gros croissant lumineux dans le ciel. Un spectacle qui ne méritera guère d'envisager un voyage de 3000 km, ce qui serait différent pour une éclipse totale. Pour information, la prochaine éclipse totale de soleil sera le 2 juillet 2019 en Amérique du Sud, au Chili et en Argentine, et la prochaine visible en Europe sera le 12 août 2026 et concernera le nord de l'Espagne.
Mais est-ce qu'il y aura d'autres événements astronomiques plus près de nous, si je puis dire, en 2018?
Oui, comme tous les 26 mois environ, la Terre passera au plus près de Mars, soit environ à 60 millions de kilomètres, hein, quand même. On appelle cela une opposition, car le Soleil et Mars se trouveront à l'opposé dans le ciel, l'un se levant quand l'autre se couche, comme la Lune et le Soleil à la pleine Lune. Par une curieuse coïncidence, ce sera aussi le 27 juillet, la date de l'éclipse totale de Lune, mais il n'y a absolument aucun lien entre les deux phénomènes. Une opposition est l'occasion pour les astronomes d'observer Mars dans leur télescope car elle sera plus grosse, ce qui permet de distinguer quelques détails à sa surface, notamment la calotte polaire. À l'œil nu, ça ne change pas grand-chose, hein. Mars restera un point orangé dans le ciel, mais elle sera plus brillante que toutes les étoiles. Par contre, durant quelques semaines, on pourra observer un phénomène à l'œil nu, la boucle de rétrogradation. Comme toutes les planètes, Mars se déplace habituellement de l'ouest vers l'est par rapport aux étoiles dans le ciel. Mais pendant la période de l'opposition, comme la Terre plus rapide sur son orbite la rattrape puis la dépasse, on la voit reculer d'est en ouest, un peu comme une voiture qu'on double sur l'autoroute et qui semble reculer par rapport à nous. Pour l'observer, il faut essayer de repérer la position de Mars par rapport aux étoiles jour après jour, par exemple une fois par semaine, et on constatera son recul environ de la fin juin à la fin août. Si on veut essayer de photographier toute la boucle, il faudra persévérer de mi-mai à mi-octobre environ pour voir la boucle complète. Si c'est un phénomène relativement banal aujourd'hui, il faut se souvenir qu'il a joué un grand rôle dans l'histoire de l'astronomie, car c'est ce comportement étrange qui a conduit Copernic et Kepler à abandonner le modèle géocentrique, hein, la Terre au centre de l'univers, pour le modèle héliocentrique, le Soleil au centre avec les planètes dont la Terre orbite en dehors de lui, qui permet mieux d'expliquer ce phénomène. Et pour finir, il y aura peut-être des phénomènes imprévus, les astronomes espérant toujours qu'un événement spectaculaire et rare intervienne, comme l'explosion d'une supernova par exemple, produisant une étoile inhabituellement brillante dans le ciel pendant quelques semaines, mais ça n'arrive qu'à quelques siècles d'intervalle dans notre Voie lactée. La dernière remonte à 1604 et a été observée par Johannes Kepler. Moins rare est le passage inopiné d'une nouvelle grande comète. La dernière bien visible à l'œil nu était Macnaux en 2007, mais qui était spectaculaire surtout dans l'hémisphère sud. Et auparavant, Albop en 1997 et Yakutake en 1996. Donc si on est un peu optimiste, on croise les doigts et surtout on surveille le ciel.
Alors on va rester optimiste, mais toujours dans l'actualité, malheureusement, petit raté pour Ariane. Hein.
Oui, nos auditeurs ont pu entendre parler dans les médias d'un incident lors du dernier tir de la fusée Ariane 5 le 25 janvier dernier. Après une dizaine de minutes, le contact a été perdu avec le lanceur pendant presque une demi-heure et au final, les deux satellites embarqués ont bien été mis en orbite, mais pas aux emplacements prévus. L'explication fournie très vite par Ariane Espace était une erreur de trajectoire expliquant à la fois la perte de contact, puisque les antennes au sol ne pointaient pas dans la bonne direction pour capter le signal radio, et la mauvaise position des satellites. Aux dernières nouvelles, l'origine de cet incident serait une erreur humaine, avec de mauvais paramètres fournis à l'ordinateur pilotant la fusée. Et les satellites pourraient rejoindre plus ou moins vite leurs emplacements corrects en utilisant leur petit moteur prévu normalement pour les corrections de trajectoire, mais ce qui risque ainsi de perdre en durée de fonctionnement car le carburant consommé peut manquer. On voit donc que les conséquences sont limitées, mais j'ai voulu revenir sur cet incident car Ariane 5 est considéré comme le lanceur le plus fiable avec 82 décollages réussis de suite. Le précédent incident remontait au 11 décembre 2012, la fusée s'étant crachée dans l'océan Atlantique en détruisant les deux satellites qu'elle portait. Comme j'avais parlé lors des deux dernières chroniques des gros lanceurs pour les missions humaines, que ce soit pour aller jusqu'à l'ISS aujourd'hui, retourner un jour sur la Lune ou peut-être à plus long terme vers Mars, je crois que cet incident montre bien les risques que prennent les astronautes en montant à bord d'une capsule perchée tout en haut d'une fusée. Si même un dispositif aussi fiable qu'Ariane n'est pas à l'abri d'un raté, on peut imaginer ce qu'il en est avec un système totalement nouveau, comme le futur SLS de la NASA.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles du système solaire ?
Alors ces dernières semaines, j'ai noté deux annonces intéressantes dans l'actualité astronomique. Vers la mi-janvier, la NASA a communiqué sur une étude publiée en décembre par l'équipe de Alex Hayes de l'université Cornell concernant la cartographie de Titan, le plus gros satellite de Saturne. Je rappelle que ce satellite a la particularité unique dans le système solaire de posséder une atmosphère dans laquelle est gentiment descendue en parachute la sonde Huygens de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en 2005, révélant des paysages assez semblables à ceux de la Terre, avec des montagnes, des rivières et des lacs. Sauf qu'étant très éloigné du Soleil, il y règne une température extrêmement froide, dans les moins 180 degrés, 10 fois plus froid qu'un congélateur, ne permettant pas à l'eau d'y exister, sauf sous forme de glace, comme les espèces de galets visibles sur la photo que la sonde nous a envoyée après s'être posée à la surface. Les rivières et les lacs sont formés par du méthane liquide, qui semble connaître sur ce satellite un cycle assez comparable à celui de l'eau sur Terre. Les chercheurs ont exploité les données topographiques envoyées par Cassini, la sonde américaine qui avait transporté Huygens, et qui a observé Saturne et ses satellites pendant 13 ans jusqu'à septembre dernier. Et ils ont publié une carte bien plus précise que ce qu'on avait auparavant, montrant par exemple des montagnes culminant à plus de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, si je peux dire. Car la découverte la plus importante qu'ils ont faite, c'est que le système de lacs de Titan était situé à une altitude commune, à 50 cm près environ. C'est donc assez similaire avec le niveau de la mer, référence qui existe sur Terre, puisque toutes les mers et océans sont en communication, obligeant leur masse d'eau à s'équilibrer à la même altitude. Cela démontre que sur Titan, tous les lacs de méthane liquide sont certainement en communication, même si cela n'apparaît pas clairement sur les photos, donc peut-être par un réseau souterrain où le liquide peut circuler.
Alors concernant la deuxième annonce dont vous parliez.
Alors elle concerne un endroit qui nous est bien plus familier, vu les nombreuses sondes qui l'ont étudié, c'est Mars. Le 11 janvier, la NASA annonçait que des chercheurs ont découvert 8 sites montrant des couches de glace dans le sous-sol, parfois à faible profondeur. Elles sont visibles dans des sortes de falaises, des pentes assez raides de l'ordre de 55 degrés à peu près, mettant en évidence les couches de sous-sol sur des photos à haute résolution de la sonde MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, qui étudie la planète depuis 2006, en orbite polaire à environ 250 km de la surface. Alors c'est sûr que la question de l'eau sur Mars n'a rien de nouveau, car toutes les images et les analyses faites par les nombreuses sondes et rovers nous ont démontré depuis des années qu'il y a eu de l'eau sur Mars dans un très lointain passé, des rivières, des fleuves et un océan, mais qu'elle a disparu, dont probablement une partie restée enfouie dans le sous-sol. Ce qui est nouveau dans cette étude, c'est la latitude à laquelle ces découvertes ont été faites. On savait qu'il y avait de la glace d'eau près de la surface de Mars ou même en surface dans les zones polaires de Mars, comme dans ces calottes polaires observables depuis la Terre. En 2008, la mission Phoenix avait montré la présence de glace souterraine à 68 degrés de latitude nord, ce qui, pour fixer les choses, serait environ le nord de la Norvège sur Terre. Mais ces nouvelles découvertes ont été faites aux alentours de 55 ou 58 degrés de latitude, l'équivalent de Copenhague au Danemark, et certaines couches de glace faisaient dans les 100 mètres d'épaisseur. Donc la NASA en conclut que cette découverte est favorable à d'éventuelles missions humaines vers Mars, car elle montre que des grandes quantités d'eau seraient exploitables à faible profondeur, même à des latitudes où le climat serait moins rude aux explorateurs que celui des régions polaires. L'eau est une question cruciale pour les missions habitées de longue durée, car elle est très lourde à transporter dans l'espace, et même si on sait la recycler, comme à bord de l'ISS, cela reste dans des faibles quantités, insuffisantes pour une installation à la surface de Mars, par exemple pour envisager la culture de plantes sous serre, afin d'assurer la production d'oxygène et l'alimentation en légumes frais, qui sont des gages de bonne santé pour les futurs pionniers martiens.
Deuxième partie de votre chronique, le sujet, le thème, et vous allez nous parler de l'eau dans l'univers.
Oui, alors curieusement, je me suis aperçu que nous avons souvent évoqué l'eau dans mes chroniques, à propos de Mars, des satellites de Jupiter et Saturne, comme Europe en cela des Titans, ou en parlant des exoplanètes, mais que nous n'avons jamais abordé globalement le sujet de l'eau dans l'univers, et je profite donc de cette actualité martienne pour le faire. La première question qu'on peut se poser est d'où vient l'eau présente dans l'univers ? Et pour y répondre, on revient aux fondamentaux, à la formule chimique de l'eau bien connue, H2O, c'est-à-dire que la molécule d'eau est formée par la combinaison de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Or, ces deux éléments ont des origines très différentes. Notre modèle actuel du Big Bang, décrivant l'histoire de l'univers depuis un état très petit, très dense et très chaud, jusqu'à la structure actuelle en à peu près 14 milliards d'années, prévoit que très tôt, seulement quelques minutes après le début du Big Bang, la température avait suffisamment baissé pour que se forment les premiers noyaux atomiques. On appelle cette étape la nucléosynthèse primordiale. Selon les calculs, elle n'a pu produire que les noyaux des premiers éléments du tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire les plus légers, beaucoup d'hydrogène, un peu d'hélium et très peu de lithium. C'est de ce processus que provient la grande quantité d'hydrogène présente dans l'univers, environ 75% de toute la matière connue. Ou plus exactement, les protons formant son noyau, car pour former des atomes en capturant des électrons, il a fallu que la température s'abaisse encore, quand l'univers est devenu transparent au rayonnement qui ne cessait avant d'interagir avec la matière. On situe cette période à environ 380 000 ans après le début du Big Bang. C'est là que naissent les atomes d'hydrogène. L'histoire des atomes d'oxygène est très différente, car comme tous les éléments plus lourds que les trois premiers, ils ont été produits par les étoiles. Les étoiles sont principalement formées d'hydrogène, et dans la fournaise qui règne dans leur cœur, à des pressions et températures très élevées, par exemple 15 millions de degrés pour notre Soleil, elles entretiennent des réactions de fusion nucléaire produisant des noyaux atomiques plus lourds. En ce moment, le Soleil est encore dans sa jeunesse et fusionne l'hydrogène en hélium. Mais vers la fin de sa vie, dans plusieurs milliards d'années, il aura accumulé en son cœur tant d'hélium qu'il le fusionnera à son tour dans des éléments plus lourds, et surtout l'oxygène et le carbone. Donc je parle aujourd'hui de l'eau, mais on peut faire une petite parenthèse pour revenir sur la célèbre expression d'Hubert Reeves, nous décrivant comme des poussières d'étoiles. Effectivement, Comme tous les êtres vivants sur Terre, nous sommes principalement constitués de chons, hein, si je peux dire, C-H-O-N, c'est-à-dire les symboles des éléments carbone, hydrogène, oxygène et azote. Et comme nous venons de le voir, mis à part l'hydrogène provenant du Big Bang, le carbone et l'oxygène proviennent d'étoiles comme le Soleil, de même pour l'azote, issu également de la nucléosynthèse stellaire. Et si l'on s'intéresse à un élément bien plus lourd, le fer, par exemple, présent dans nos globules rouges et permettant de transporter l'oxygène de l'air vers tous nos organes, il a été produit par les énormes étoiles qui terminent leur vie dans les explosions nommées supernovas. Pour que nous puissions exister, il a fallu qu'avant le Soleil brillent d'autres étoiles plus anciennes et que les plus grosses explosent.
Mais l'eau est-elle rare dans l'univers, Michel ?
Alors c'est une idée un peu fausse mais très courante. Car comme on associe souvent eau et vie, on pense que les deux sont tout aussi rares dans l'univers. Mais la rareté ne concerne que l'eau liquide, pas l'eau en général qui peut exister sous forme de glace ou de vapeur. Comme l'hydrogène est de très loin l'élément le plus abondant de l'univers, dans les 75% de notre Voie lactée par exemple, et que l'oxygène est lui aussi assez courant, à peu près 1% de la Voie lactée, car produit par toutes les étoiles, la molécule d'eau est donc l'une des plus courantes dans l'univers. Bien sûr, très loin derrière H2, hein, la molécule du gaz hydrogène constituée de deux atomes d'hydrogène. Les molécules d'eau se forment lentement dans le milieu interstellaire très froid. Les études montrent que la plus grande partie de cette eau existe soit sous forme gazeuse, soit plus souvent sous forme de glace déposée à la surface de petits grains de poussière dans le milieu interstellaire. L'eau liquide est beaucoup plus rare, car elle ne peut exister que dans des conditions de pression et de température réunies à la surface de corps orbitant autour des étoiles qui les réchauffent, c'est-à-dire les planètes et leurs satellites. Encore faut-il qu'il soit à la bonne température, donc à la bonne distance de l'étoile en fonction de sa puissance. C'est la notion de zone d'habitabilité que nous avons déjà évoquée plusieurs fois ici à propos des exoplanètes, les planètes découvertes autour d'autres étoiles que le Soleil, pour lesquelles les astronomes essaient de déterminer l'orbite pour savoir si elle se trouve dans cette zone habitable, on peut le dire aussi comme ça. En examinant notre propre système solaire, on comprend facilement que cette condition est nécessaire mais pas suffisante. Trop près du Soleil, donc trop chaud, il ne peut exister que de la vapeur d'eau, comme par exemple au niveau de Mercure, planète trop petite et trop chaude pour retenir d'ailleurs une atmosphère autour d'elle. Trop loin, donc trop froid, il ne peut exister que de la glace, comme dans les planètes géantes gazeuses, Jupiter et au-delà. Un bon exemple étant les anneaux de Saturne constitués à 95% de glace, ou encore plus loin les comètes qui renferment aussi beaucoup de glace. Le problème c'est que la zone d'habitabilité entre les deux, hein, du Soleil, contient trois planètes, Vénus, la Terre et Mars. Or seule la Terre présente actuellement de l'eau liquide à sa surface, car les conditions spécifiques à la planète, notamment son atmosphère, jouent un rôle aussi important que la bonne distance à l'étoile. Vénus, d'une taille comparable à la Terre, possède une atmosphère composée essentiellement de gaz carbonique, produisant un effet de serre terrible qui lui donne une température très élevée, dans les 450 degrés, où ne peut exister que de la vapeur d'eau. À l'inverse, Mars est une planète trop petite pour avoir pu conserver une atmosphère dense comme la Terre, et perdant la plus grosse partie de son atmosphère, elle a également perdu l'eau liquide qui existait dans son lointain passé. Car plus la pression atmosphérique est faible, plus l'eau bout à basse température. Par exemple, il est difficile de cuire des aliments en haute montagne, car l'eau y bout bien en dessous de 100 degrés. Par exemple, au sommet de l'Everest, c'est dans les 70 degrés. L'eau de Mars s'est donc progressivement évaporée dans son atmosphère, qu'elle ne parvenait pas à retenir en raison de sa petite taille. La zone d'habitabilité ne fait donc pas tout, mais à l'inverse, on trouve dans le système solaire de l'eau hors de cette zone. Sur les satellites Europe, un satellite de Jupiter, et Encelade de Saturne, alors qu'ils sont en principe trop loin du Soleil, ils possèdent néanmoins un océan sous leur banquise de glace, car une source de chaleur interne les réchauffe. C'est l'effet des déformations mécaniques qu'ils subissent pendant leurs orbites autour des planètes géantes, ce qu'on appelle effet de marée, un peu comme une balle de caoutchouc que l'on écrase et relâche alternativement et qui chauffe, ou un trombone hein, qu'on tord et qu'on détord.
Mais d'où vient finalement l'eau de la Terre ou de Mars ?
Avec ce qu'on sait de l'histoire du système solaire, qui a de bonnes chances de ressembler à ce qui s'est passé pour d'autres systèmes planétaires, l'eau de la Terre ou des autres planètes aurait deux origines. Il y avait de l'eau sous forme de vapeur et de glace dans le grand nuage interstellaire de gaz et de poussière qui a donné naissance au système solaire en se comprimant, comme on l'observe actuellement par exemple dans la grande nébuleuse d'Orion, la constellation vedette du ciel de l'hiver. Donc cette eau s'est retrouvée automatiquement dans les planètes qui se sont formées. Mais sur Terre, c'est surtout en combinaison avec d'autres éléments dans sa croûte ou en vapeur dans son atmosphère, par dégazage de son manteau. Encore aujourd'hui, les volcans en éruption recrachent beaucoup de vapeur d'eau, bien plus que du gaz carbonique ou des gaz soufrés. Par contre, on ne pense pas que ce phénomène suffise à expliquer la grande quantité d'eau présente en surface, et à plus de 95% dans les océans, qui n'ont pu se former qu'une fois la croûte suffisamment refroidie. On estime donc qu'il y a eu un second apport d'eau sur Terre, et les autres planètes, lors de la période catastrophique appelée « bombardement tardif », dont l'effet est encore bien visible avec les très nombreux cratères qui criblent la surface de la Lune. Du fait d'une instabilité des orbites des planètes géantes, celle-ci, et surtout Jupiter, la plus grosse, ont bousculé, si je peux dire simplement, les réservoirs de petits corps, comètes et astéroïdes, qui ont été éjectés de leurs orbites et sont venus bombarder les planètes intérieures comme la Terre, leur apportant l'eau qu'ils contenaient, et notamment les comètes très riches en glace. Et certaines études actuelles de ces petits corps concernent l'eau qu'ils renferment afin de déterminer quelle proportion de l'eau terrestre viendrait de sa composition initiale, des astéroïdes ou des comètes. Et pour finir, je ne peux pas oublier que l'eau liquide est un élément essentiel à l'existence de la vie telle qu'on la connaît sur Terre et dont les briques initiales ont peut-être aussi d'ailleurs été apportées par les comètes. Cela explique pourquoi on cherche à savoir si les exoplanètes que nous découvrons peuvent porter de l'eau liquide, ce qui serait un élément favorable à la possibilité d'une vie à leur surface. La recherche de l'eau liquide est une étape primordiale dans notre quête d'une vie extraterrestre, mais les moyens actuels ne permettent pas d'avoir de certitude à propos de l'eau sur ces exoplanètes. Les futurs grands télescopes, comme l'IELT en cours de construction au Chili, ou le JWST qui doit être envoyé dans l'espace en 2019 par Ariane, devraient nous permettre de progresser dans cette recherche. Donc rendez-vous dans quelques années pour en savoir un peu plus.
Troisième partie de votre chronique, le ciel du mois.
Alors comme dans les dernières chroniques, je vais résumer cette partie en renvoyant plutôt les auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, parce que ça permet de voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails. Entre le solstice d'hiver et cette fin janvier, l'allongement des journées commence à être bien perceptible. Actuellement, le soleil se couche un peu après 18h et la nuit noire débute vers 19h15. Mais d'ici fin février, on gagnera à peu près 3 quarts d'heure en soirée, avec un coucher vers 18h45 et la nuit un peu avant 20h. Aujourd'hui, les constellations d'hiver entourant la silhouette humaine d'Orion, le taureau, le cocher, le gémeau, les petits et grands chiens, en formant un grand G avec leurs étoiles les plus brillantes, sont encore en cours d'ascension au sud-est en début de nuit, mais à la fin du mois, elles seront pratiquement plein sud, au plus haut de leur trajet dans le ciel. Comme ces dernières semaines, aucune planète n'est visible dans le ciel du soir et il faudra patienter jusqu'à mars environ pour voir Vénus et Mercure nous revenir au crépuscule. Vénus commencera à poindre brièvement vers la mi-février. C'est surtout Jupiter qu'on peut remarquer très brillante le matin vers le sud à 6h30 par exemple. Il se lève vers 2h30 actuellement mais dès 1h du matin fin février. Il est accompagné de Mars un peu plus bas, se levant environ 1h30 plus tard et qui reste encore aujourd'hui peu lumineuse, à peu près comme une étoile brillante, rien à voir avec son éclat près de l'opposition de fin juillet. Mais on peut la reconnaître au milieu des étoiles à sa teinte orangée. Bien plus tard, vers 6h en ce moment, 4h30 en fin de mois, c'est Saturne qui se lève le matin. Or comme il y a peu de planètes observables, il y a très peu de conjonctions dans les éphémérides de février, un presque quartier de lune qui se rapproche de Jupiter le matin du jeudi 8, puis le gros croissant près de Mars le lendemain matin vendredi 9, puis un fin croissant près de Saturne le dimanche 11 matin à partir de 5h30 à peu près. Et le matin du 12, c'est un lundi, après 6h, on pourra observer un bel alignement du fin croissant de lune, de Saturne, de Mars et de Jupiter dans le ciel, matérialisant une portion de la ligne abstraite de l'écliptique, qui est le trajet du Soleil dans le ciel au fil de l'année, auprès de laquelle circulent les planètes et la Lune. Et rien d'autre à signaler jusqu'à notre prochain rendez-vous qui devrait être en principe le mercredi 28 février.
Voilà, mais ce sera le mercredi 28, sauf bien sûr élément extérieur. Alors Michel, oui, mais je n'oublie pas, voilà, vous avez quelques ouvrages, oui, en calendrier. Si... Alors dites-nous en plus.
Oui, si on peut se permettre de faire un tout petit peu de publicité.
Oh, c'est de la promotion, c'est pas de la pub.
Une des principale revue d'astronomie s'appelle Ciel et Espace, c'est devenu depuis un an et demi je crois, bimestriel, et vient de sortir le numéro janvier-février 2008, c'est le numéro 557, et je le signale parce que ceux qui s'intéressent au ciel, au calendrier astronomique de l'année 2018, donc le genre de choses que je raconte un petit peu dans la rubrique Ciel du mois, peuvent le retrouver dans le calendrier astronomique de l'année qui est en annexe de la revue ce mois-ci. Donc un calendrier qui, mois par mois, va redonner chaque jour où il y a quelque chose d'intéressant à voir dans le ciel. Et bien sûr, à chaque mois, on a une belle photo du ciel, hein, de toutes sortes, des aurores, la Voie lactée ou autre.
On l'a montré nous janvier, par exemple, Michel. Quoi qu'en radio, c'est pas... Voilà.
Ah, bah, c'est une belle circumpolaire, c'est-à-dire voilà, une photo de très très longue pose en visant l'étoile polaire, qui permet de voir la rotation de la Terre, hein, donc des étoiles qui forment comme des cercles. Et en vous parlant, je me rends compte que je viens de dire une bêtise parce que c'est le pôle sud, puisqu'il n'y a pas d'étoile polaire visible sur l'image et qu'à l'inverse, on voit les deux nuages de Magellan.
Oui, je n'osais pas vous le dire, mais je l'avais remarqué au
Le genre de choses, le genre de choses qu'on peut voir en Afrique du Sud, par exemple.
Oui, mais voilà.
Et si je regarde la partie calendrier proprement dite, eh ben le 31, on signale bien qu'il y a l'éclipse totale de lune, mais en Asie et
oui,
dans le Pacifique.
Oui, ça permet de suivre l'actualité. Alors, comment on peut se procurer
dans On le trouve les, dans les kiosques.
Dans tous les bons kiosques, comme
voilà,
on dit.
On trouve dans les kiosques. C'est une revue, hein, comme une autre qui paraît depuis des années. Mon amie, en ce moment, elle a manie d'acheter des choses dans des brocantes. Elle m'a retrouvé des vieilles revues Ciel et Espace qui doivent remonter aux années 90.
Oui,
et c'est parfois assez amusant parce que on voit des choses où on se posait des questions alors que maintenant on a les réponses. Et juste celle qui est au-dessus de la pile parle d'une mission vers le pôle de Mars, le pôle nord de Mars. Et c'est assez amusant de savoir qu'en fait, peu de semaines ou de mois après l'article, la fameuse sonde s'est écrasée à la surface de Mars. Et en plus, pour une bêtise humaine, encore une fois, c'est le moment où la NASA est passée des fameuses mesures anglo-saxonnes au système métrique, sauf qu'un de ses sous-traitants n'était pas au courant, et quelqu'un qui devait calculer, enfin programmer la descente de la sonde sur Mars avait encore travaillé en miles au lieu de kilomètres, et comme ça, la sonde s'est écrasée à la surface.
Bon, voilà, ce sont malheureusement de belles histoires, mais tragiques pour celle-ci. On vous le disait, hein, Ciel et Espace, donc c'est le numéro 557. Hein.
Voilà, juillet, février, c'est le seul qu'on
peut retrouver des anciens numéros dans les brocantes.
Voilà, et voilà. Donc le calendrier qui est annexé à l'arbu.
Oui, voilà, on est en début d'année. Alors on va rappeler, hein, Michel, on ne va pas se quitter comme ça. Alors déjà, la prochaine chronique, numéro 40, donc de mercredi 28 février. Et redites-nous quelques mots sur l'association Constellations et Galaxies. Il faut bien appuyer sur l'ES, c'est pluriel.org.
Une association basée en Dordogne, hein, près de Mussidan, dont la vocation est la diffusion de la connaissance scientifique, de la culture scientifique. Et l'une des principales particularités, parce qu'il y en a très peu dans la région, c'est de posséder un planétarium itinérant. Hein, c'est une structure gonflable qui peut venir dans les établissements scolaires ou des associations ou d'autres structures d'accueil. Et comme c'est une structure rare, on couvre une zone bien plus large que la Dordogne en faisant par exemple jusqu'à Bordeaux, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à Brive ou au nord vers Angoulême ou Villeneuve-sur-Lot, c'est à peu près ça la zone dans laquelle
vous pouvez vous déplacer. Hein,
et j'en profite pour dire que peut-être on va développer une nouvelle activité en 2018, mais ça reste suspendu à un financement de la région qui doit se décider ces jours-ci. Comme la région fait des appels à projets thématiques et que cette année le thème c'est la robotique et l'intelligence artificielle, nous avons proposé de développer sur la même zone un atelier itinérant de programmation de robots avec des petits systèmes, je ne savais pas, mais Lego fabrique des boîtes robotiques et permet comme ça avec une petite tablette, on construit les robots très facilement, à tous les gamins ça va assembler des briques Lego. Et après, avec un système très très simple de programmation, on va dire graphique, de programmer les robots pour remplir des petites missions, dont par exemple des missions un petit peu astronomiques, astronautiques, on va dire, d'aller récupérer un échantillon sur Mars et de le ramener à sa base, ou de suivre une ligne, un peu comme un satellite qui suivrait une orbite autour d'une planète. Mais pour le moment, je n'ai pas encore la réponse de la région. Je ne sais pas si ça restera un projet infructueux ou si vraiment on va démarrer dans les mois qui viennent cette nouvelle activité.
Bon, mais vous nous tiendrez au courant, bien sûr, et informés de cela, notamment le mois prochain. Michel, merci. Rendez-vous donc le 28 février, mercredi.
Pas de problème.
Allez, merci à vous, Michel, pour tout ce travail. Hein. On le rappelle, vous pouvez retrouver toutes les chroniques sur le site constellationsetgalaxies.org.